Bonsoir à toutes et à tous. Wagon Livre, votre émission littéraire est de retour, comme chaque mercredi, sur les ondes de Radion. À l'approche des commémorations de l'armistice 1918, il nous a semblé important, je dirais même indispensable, à notre manière, de marquer l'événement autour des commémorations de cette première guerre mondiale qui, je le rappelle, a vu mourir plus de 6 millions d'hommes. Ce soir, au cœur de notre émission, un livre va guider l'entretien que nous allons vous proposer. Il s'agit des « Secrets de la Grande Guerre » paru aux éditions de la librairie Vuibert. Son auteur, officier historien, est devant notre micro. Rémy Porte, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous d'avoir répondu à cette invitation. Je rappelle que nous enregistrons cette émission au siège du groupe Albin Michel, dont fait partie donc les éditions de la librairie Vuibert. Peut-être les auditrices et auditeurs entendront-ils de temps en temps vibrer le sol. C'est la gare Montparnasse qui est pas loin de nous. Rémy Porte, je vous présente un peu à celles et ceux qui nous ont rejoints ce soir. Vous êtes un spécialiste de l'histoire de la Première Guerre mondiale. Vous êtes aussi militaire, hein, vous êtes officier de l'armée d'active, j'ai dit que vous étiez officier historien. Vous avez notamment dirigé avec François Cochet le dictionnaire de la Grande Guerre dans la collection Bouquins, ça c'était il y a 4 ans, 2008. Plus récemment, l'an dernier, vous avez publié une chronologie commentée de la Grande Guerre, juin 1914, juin 1919. Là, c'était aux éditions Perrin. Et puis ce soir, on parle donc des secrets de la Grande Guerre qui regroupe 15 chapitres classés de manière chronologique. C'est-à-dire que chaque année, vous avez essayé de mettre en valeur quelques aspects méconnus ou mal connus, peut-être des aspects qui ont été délibérément cachés, tantôt par les politiques, tantôt par les militaires. Et on va revenir effectivement sur ces 4 ans d'une guerre terrible, une grande boucherie, dont je rappelle finalement le bilan en perte humaine aujourd'hui. On a un peu du mal à voir un bilan définitif, Rémy Porte, oui, en termes de morts.
Alors, la question des pertes pendant la Grande Guerre est extrêmement difficile à établir, non pas tant pour les principaux États d'Europe de l'Ouest, qui ont déjà une administration extrêmement développée, des systèmes de suivi de la population, de recensement extrêmement modernes et performants, mais en particulier parce qu'il s'agit bien d'une guerre mondiale, et que si l'on veut envisager les pertes dans leur ensemble, il faut tenir compte des pertes de tous les fronts orientaux, la Russie, la Serbie, la Roumanie, de tous les fronts turcs, et puis des fronts asiatiques et du Pacifique. Et dans un certain nombre de ces territoires à l'époque, le recensement est encore une notion assez aléatoire. Donc, on a souvent des estimations. Il est en fait quasiment impossible d'établir un chiffre définitif.
Mmh. Bon, j'ai dit dans mon introduction plus de 6 millions de morts. L'hécatombe me semble déjà immense.
Hein.
Alors, justement, la transition est relativement facile. On oublie, et vous le dites dans Les Secrets de la Grande Guerre, que les premières semaines de guerre, août-septembre 1914, sont vraisemblablement les plus meurtrières de l'ensemble du conflit. Alors qu'on a toujours tendance à garder des épisodes presque mythiques. On pense bien sûr aux tranchées, on pense à Verdun, Verdun hein, pour les Allemands. Et finalement, les premières semaines de la guerre sont particulièrement meurtrières. Et vous revenez sur ce qui scandalisait peut-être les contemporains et qui aujourd'hui nous paraît absolument ridicule, c'est le port par les soldats français au début de la guerre de 14, le port du fameux pantalon rouge qui, effectivement, est une tradition. Ce pantalon rouge est une tradition dans l'armée française en 1914. C'est pour cela d'ailleurs qu'on maintient cette couleur.
Oui, tout à fait. Alors, la plupart des armées européennes, à partir de la guerre d'Afrique du Sud, à partir de la guerre des Boers menée par les Britanniques, la plupart des armées européennes ont progressivement adopté des tenues plus neutres sur le champ de bataille, dans des nuances de vert, de gris, de brun, etc. Et l'armée française elle-même a procédé à toute une série d'expérimentations de nouvelles tenues, entre guillemets, plus adaptées au service en campagne, dans les années qui précèdent la Grande Guerre. Mais replaçons-nous dans le contexte de l'époque. Il faut, pour changer les tenues d'une armée comme l'armée française à l'époque, au moins 2 jeux de tenues pour chaque soldat présent sur les drapeaux, sous les drapeaux, plus des tenues de réserve pour tous ceux qui seraient susceptibles d'être mobilisés. Je rappelle que pendant la Grande Guerre, on a dû mobiliser de l'ordre de 8 millions d'hommes. Il faudrait donc 16 millions de tenues, 2 par homme. Et c'est pour cette raison que le changement de tenue n'a pas été adopté. Il a été refusé par les parlementaires pour des questions budgétaires. Les parlementaires ont été appuyés en ce sens par la presse généraliste, disons, de l'époque, des organes de presse comme Le Petit Parisien, etc., qui jouaient sur une fibre nationaliste, entre guillemets, en rappelant que le pantalon rouge, c'était le glorieux héritage de la guerre de 1870, et qu'on avait été écrasé par les Prussiens en 70-71 en portant le pantalon rouge, et qu'on vengerait l'affront, qu'on remporterait la prochaine victoire avec le même glorieux pantalon rouge. Et on a donc, à la conjonction de ces deux mouvements de pression, en quelque sorte, de ces deux contraintes, le refus de changer de tenue avant 1914. Ce qui fait que le piou-piou français, comme on l'appelle parfois à l'époque, s'engage en août 14 avec des images fameuses reprises dans la littérature, dans le cinéma, etc., dans les champs de blé mûr avec sa tenue bleue et rouge, et qu'il a en face de lui des soldats allemands en Feldgrau, tenue de campagne.
Alors vous expliquez par exemple dans votre ouvrage qu'entre 1912 et 1914, la priorité budgétaire d'un point de vue militaire est allée essentiellement à l'aménagement des casernes et à l'hygiène aussi et à l'amélioration des conditions de vie du soldat.
Oui. Alors là aussi, il faut se replacer dans le contexte de la France d'avant 1914. De même que l'école primaire et la scolarité obligatoire est un élément absolument essentiel de formation du citoyen au début de la Troisième République, de la même façon, le service militaire devenu obligatoire est également une école du citoyen. Premier point.
Quelle est la durée du service militaire avant 14?
Il a varié 3 ans, 2 ans, puis 3 ans, peu avant la guerre. De la même façon, il y a en France à cette époque-là tout un mouvement extrêmement général avec les progrès de la santé, les progrès de la médecine en faveur de l'hygiène. Et donc, à l'école du soldat, à la caserne, les gens doivent avoir la possibilité de se laver le matin, de se doucher, etc., etc. On est dans ce mouvement-là de la société dans son ensemble. Par ailleurs, le vote de la loi des 3 ans avant la guerre, qui va maintenir une classe de plus sous les drapeaux et donc augmenter les effectifs dans les casernes, oblige à construire de nouveaux bâtiments, tout simplement pour accueillir davantage de recrues du contingent, de soldats du contingent. Et donc, besoin de modernisation de bâtiments parfois anciens d'une part et de construction de nouveaux bâtiments d'autre part, les accroissements budgétaires pour ce qui concerne l'armée de terre à l'époque sont essentiellement placés dans des travaux d'infrastructure, plus que dans des questions d'équipement et de matériel.
Mais on est attaché à l'élégance, parce qu'effectivement, on voit, et vous l'avez dit, combien la presse proteste lorsqu'on évoque la possibilité de mettre au rebut le pantalon rouge au profit d'une autre couleur. Effectivement, on voit que la presse appelle la population à protester, il faut garder ce pantalon rouge, qui finalement avait des aspects, si je peux me permettre, pratiques, vous le dites, puisque ça permettait d'éviter les tirs fratricides en voyant, il y avait une visibilité du soldat pendant les grandes manœuvres en tout cas.
Alors ça c'était vrai
pendant
surtout...
les combats.
Pardon. Ça, c'était vrai surtout jusqu'à la fin du XIXe siècle. Les progrès techniques de l'artillerie au début du XXe siècle font que la question des tirs fratricides... Alors, bien sûr, il y en aura encore pendant la Grande Guerre. Il y en a eu pendant la Seconde. Il y en a dans tous les conflits des tirs fratricides. Mais sur de grandes unités constituées avec des effectifs importants, globalement, les progrès techniques permettent d'éviter ces problèmes-là, ces tirs fratricides. Donc, conserver le pantalon rouge pour cette seule raison devient un faux argument au début du XXe siècle.
Puis alors, il y a aussi la pression des milieux politico-économiques autour des producteurs méridionaux de Garance, qui était le colorant naturel qui, alors, donc, teintait le textile.
On est là dans une idée reçue, hein, transmise de génération en génération. En fait, la Garance, produit naturel, produit essentiellement dans le sud-est, en Provence, hein, la Garance n'est pratiquement plus utilisée à partir de la fin du XIXe siècle. Et avant la guerre de 14, c'est paradoxal, on utilise essentiellement des produits chimiques venus d'Allemagne. C'est-à-dire que, au nom de la conservation du pantalon rouge, parce qu'on se souvient qu'il est un symbole national, ou on veut le présenter comme tel, parce qu'on se souvient, ou on veut toujours croire que ça permet de, d'aider les producteurs méridionaux, au nom du pantalon rouge, on multiplie en fait les achats à l'industrie chimique allemande.
Oui, ce qui est absolument paradoxal. Incroyable. Mais à quel moment va-t-on mettre enfin de côté ce pantalon rouge au profit du fameux bleu horizon, le fameux bleu de la victoire, et puis le képi, quand le képi est-il abandonné?
Alors, c'est pendant l'année 15. Les travaux, les réflexions, les essais sont rapidement menés, mais parce qu'il y avait déjà de nombreuses expérimentations au préalable, je parle de la tenue, hein, au niveau de l'état-major à l'automne 1914, pour des contraintes de guerre, de réduction des ressources, de diminution des matières premières, etc., il n'est pas possible d'obtenir des Britanniques la tenue kaki, le drap kaki. Et donc on se dirige vers une tenue bleu horizon, parce que c'est à la fois considéré comme moins visible, ce qui est vrai, mais c'est aussi la seule qu'à ce moment-là, nos ressources industrielles nous permettent de produire en quantité suffisamment importante. Pour le casque, ça sera le casque Adrian, qui va remplacer progressivement, alors plus lentement encore, le képi dans le deuxième semestre 1915, disons, et pratiquement toute l'armée sera équipée à la fin de l'année 15.
Là, l'armée est obligée de faire face aux réalités des blessures dues aux éclats d'obus.
Oui, aux éclats d'obus et puis au feu du champ de bataille en général. Hein. Mais cette question du képi, là aussi, avait été étudiée, envisagée à plusieurs reprises avant 1914. Et comme dans tous les pays, et peut-être comme à toutes les époques, il y a ensuite des décisions et des choix budgétaires et des priorités accordées à tel ou tel domaine.
Mais peut-on dire que l'armée allemande avait une longueur d'avance en termes d'équipement de ses soldats?
Alors, en termes d'équipement individuel, oui, mais tout de suite, je mets un bémol, elle avait une longueur d'avance, pas nécessairement sur toutes les armées. Les autres armées, y compris l'armée serbe, l'armée britannique avait une tenue de campagne qui était une tenue kaki ou qui était une tenue vert-gris. Les Français sont vraiment les derniers à entrer en campagne avec ce type de tenue.
Si vous le voulez bien, eh bien, on va marquer un premier temps de pause. Nous vous retrouvons, Rémy Porte, d'ici quelques minutes. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un ouvrage dont il est question ce soir, hein, Les secrets de la Grande Guerre, paru aux éditions de la librairie Vuibert. Et si vous en êtes d'accord, je vous propose d'écouter L'Amas de Long, un chant populaire qui a été créé par le chanteur Bach un petit peu avant le début de la guerre, mais qui finalement est devenu un véritable hymne militaire. Bonne soirée sur Radio, on se retrouve d'ici quelques minutes avec notre invité.
Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à deux pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre, autour Louroux, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon, comme son vin, son œil pétille. Nous l'appelons la Madelon, nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle, on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire. Une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Un caporal en képi de fantaisie s'en fut trouver Madelon un beau matin, et fou d'amour lui dit qu'elle était jolie et qu'il venait pour lui demander sa main. La Madelon pavait en somme, lui répondit en souriant, et pourquoi prendrais-je un seul homme quand j'aime tout un régiment. Tes amis vont venir, tu n'auras pas ma main, j'en ai bien trop besoin pour leur verser du vin. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle, on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire. Une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle, on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon.
Contactez Radion 03 86 46 50 50. Radion.
Retour à bord de votre émission littéraire, ce soir Wagon Livre, consacré à la Grande Guerre de 14-18, en compagnie de notre invité Rémy Porte, officier historien, passionné par le conflit de 14-18, au point qu'il a écrit un très grand nombre d'articles très, très pointus, érudits et universitaires. Tandis que le livre dont il est question ce soir, « Les secrets de la Grande Guerre », est un livre qu'on peut plus facilement mettre entre les mains d'amateurs dont je fais partie. Et je rappelle, donc, « Les secrets de la Grande Guerre » sont disponibles aux éditions de la librairie Vuibert. Rémy Porte, vous souhaitiez aussi préciser que vous animez, avec des férus d'histoire passionnés de Première Guerre mondiale, un site internet. Je vous laisse en parler parce que je pense que ça peut intéresser nos auditeurs.
Oui, tout à fait. Alors, il s'agit d'un site dont le nom est Guerre et conflit 19e-21e siècle. Guerre au pluriel et conflit au pluriel. Donc, on trouve très facilement sur un moteur de recherche sur Internet, sur la toile. Et en fait, nous nous efforçons de présenter très, très, très activement 2-3 livres tous les jours, spécialisés vraiment sur l'histoire, avec une priorité sur les dernières parutions ou les parutions de la semaine, de façon à coller au plus près de l'actualité, et puis présenter le plus grand nombre possible de revues traitant d'histoire, revues généralistes ou spécialisées. Donc ça représente presque un deuxième métier le soir, mais ça permet de populariser tout ce qui a trait à l'histoire des deux derniers siècles.
Parfait. On aura d'ailleurs aussi l'occasion, à l'issue de cette émission, de rappeler le site, et puis je rappelle que cette émission sera mise en podcast après sa diffusion, et là encore nous mettrons le lien vers le site dont vous avez parlé pour celles et ceux qui veulent bien ma foi enrichir leur bibliothèque sur l'histoire du 19e jusqu'au 21e siècle. Ce soir nous nous concentrons sur la Grande Guerre, cette guerre de la Grande Boucherie, et vous avez un chapitre absolument passionnant sur le caporal Peugeot, que l'histoire française a gardé comme étant le premier mort de cette guerre de 1914. Alors, est-ce que vous pourriez rappeler, Rémy Porte, s'il vous plaît, dans quelles conditions le caporal Peugeot, avec d'autres soldats à un poste frontière non loin de Belfort, me semble-t-il, se voit agressé un peu avant la déclaration officielle de guerre par des Uhlans, me semble-t-il.
Voilà. Alors, dans les jours qui précèdent la déclaration effective de guerre, chaque pays prend des mesures de précaution. Pour la France, c'est un processus de couverture, c'est le terme réglementaire employé à l'époque, c'est-à-dire que les corps d'armée, les divisions, les régiments de la frontière du Nord-Est sont déployés en dehors de leur caserne, en dehors de leur garnison, en protection de la frontière. Et c'est, on appelle ça la couverture parce qu'elle couvre, justement, elle protège la mobilisation qui va avoir lieu à l'arrière. Ça évite d'être surpris et d'avoir une frontière perméable pendant la mobilisation. Donc le caporal Peugeot appartient à l'une de ces unités. Il est installé sur un petit poste au bord d'une route, un poste de surveillance, un poste de contrôle. Hein.
En fait, il est à l'est de la commune de Joncheret,
voilà,
sur le territoire de Belfort. Oui.
Et nous sommes au premier jour du mois d'août, le 2 août de mémoire. Oui. Donc, un temps splendide. Les hommes écrivent qui une lettre à leur famille, etc. Et puis soudain surgit une patrouille de cavalerie allemande qui elle aussi est en reconnaissance alors que la guerre n'a pas été déclarée.
Mais fait une incursion sur le territoire français.
C'est effectivement une des quelques incursions sur le territoire français avant même la déclaration de guerre. Cette patrouille de cavalerie allemande charge. Le caporal Peugeot qui essaye de riposter avec son arme est tué. Il tue lui-même l'officier, le lieutenant allemand qui commande la patrouille. Et le 2 août, en fin d'après-midi, le soldat français et l'officier allemand sont allongés tous les deux dans la salle commune du village et sont les premiers morts de la guerre sur le front ouest. Avant même la déclaration de guerre.
Ce caporal Peugeot, c'est aussi tout un symbole parce qu'il est un instituteur, et vous rappelez là aussi combien le corps des enseignants, alors les fameux hussards noirs de la République, a joué un rôle important aussi et a été grandement sacrifié par la nation au combat.
Alors, c'est tout à fait exact. Les fameux hussards noirs de la République. Alors, il est jeune, hein, Peugeot, c'est un très jeune instituteur qui vient de commencer sa carrière. Les fameux hussards noirs de la République.
Oui, il a 21 ans.
Ah, oui. Les fameux hussards noirs de la République sont les acteurs essentiels de cette formation du soldat citoyen ou du citoyen-soldat que j'évoquais tout à l'heure. Et pendant leur service militaire, ils ont la possibilité de suivre des pelotons, et ils suivent généralement, des pelotons d'élèves officiers, d'élèves sous-officiers et d'élèves officiers, et c'était le cas du caporal Peugeot, hein, qui devait être promu au grade supérieur quelque temps après. Ils sont vraiment considérés comme un des grands corps qui assure l'armature de la République à l'époque. Et ils seront des milliers à tomber pour le pays, à être cité, décoré, ils reçoivent la Légion d'honneur, la Croix de guerre, etc. C'est vraiment un des grands corps de la République qui participe à l'encadrement des armées à tous les niveaux hiérarchiques, caporal, caporal-chef, sous-officier, officier subalterne, on retrouve des instituteurs à tous les grades.
Rémy Porte aussi, vous expliquez, dans ce chapitre consacré donc au caporal Peugeot, il est enterré une première fois à Joncheret,
sur place,
et c'est la famille qui réclame le corps, donc il est déterré et enterré donc dans le petit village d'Étupes, non loin de Montbéliard, d'où il est originaire. Et là, il est enterré dans son village le 4 août.
Voilà, ça va très vite, en 48 heures en fait.
Et alors, ce qui est incroyable, c'est que finalement, la mort de ce caporal passe inaperçue, la presse ne citera même pas son nom. Comment se fait-il
tout simplement,
qu'on ne veut pas parler de cet incident? Parce que la guerre n'est pas officiellement déclarée.
Non, je ne pense pas qu'on ne veut pas en parler officiellement, mais les choses vont extrêmement vite entre ce 1er et 4 août. Donc la presse aurait pu en parler le 3, par exemple, mais le 3 août, chacun comprend que les événements nationaux et internationaux sont tels qu'il y a des choses, j'allais dire, avec tout le respect qu'on doit au caporal Pojo, mais qu'il y a des choses nationalement plus importantes à mettre à la une des journaux. Et puis, les pertes sont telles à partir du début du mois d'août et pendant les premières semaines de guerre que son souvenir aurait plus ou moins tendance à s'estomper dans le nombre extrêmement élevé des morts. En fait, son souvenir va commencer à réapparaître en 1916 et va être utilisé essentiellement après la Grande Guerre, parce que justement, il est un symbole, c'est l'instituteur tombé pour la défense du pays.
Mais il faudra attendre très précisément le 16 juillet 1922 pour que Raymond Poincaré, qui est président du Conseil, inaugure à Joncheray un monument érigé en la mémoire du caporal Peugeot. Et ce qui est absolument terrible, c'est que vous expliquez que l'obélisque qui avait été donc posé à la mémoire de ce caporal sera détruit par l'occupant allemand en juillet 1940. Et alors, à l'heure actuelle, apparemment, il y aurait un mur du souvenir.
Voilà. A été reconstruit, réaménagé ensuite à partir d'une souscription, un mur du souvenir, alors qu'il n'a plus du tout la même forme, évidemment, entre un obélisque et un mur, il n'a plus du tout la même allure que le monument d'origine, pardon, mais devant lequel se déroulent régulièrement des cérémonies patriotiques, avec les écoles, etc.
Nous aurons bien compris, d'ailleurs, l'importance du nombre d'instituteurs mobilisés et tués. Je reprends ces chiffres que vous citez dans votre livre, Les secrets de la Grande Guerre. Sur près de 36 500 instituteurs mobilisés, on compte en 1919 7 780 morts sur les champs de bataille ou des suites des blessures. Et puis on comptera quand même 10 280 blessés parmi les instituteurs.
Si vous me permettez, des établissements comme l'école nationale, l'ENS, des établissements de formation du corps professoral à l'époque, vont tous inaugurer dans les années qui suivent la Grande Guerre des plaques commémoratives à leurs élèves ou à leurs professeurs tombés au champ d'honneur pendant la Grande Guerre. Et de même qu'on trouve dans les monuments, dans les villages, sur la place, auprès de l'église, auprès de la mairie, le monument aux morts, on trouve dans ces établissements de formation du corps enseignant, pratiquement partout, de grandes plaques commémoratives, avec une liste des fois extrêmement longue d'élèves morts pendant la guerre.
Toujours à l'écoute de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion consacrée ce soir à la Grande Guerre, émotion encore avec la pause musicale qui va suivre, on va écouter Berthe Silva. Elle nous interprète « Rends-moi mon papa », une chanson qui raconte le Noël d'un enfant dont le papa est parti là-bas. Alors là-bas, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, ce ne sont pas des joujoux que cet enfant attend le soir de Noël, mais le retour de son papa. On se retrouve dans quelques minutes pour Les secrets de la Grande Guerre avec son auteur qui est notre invité, Rémi Porte.
T'écris ce soir comme chaque année, j'ai mis mes souliers dans la cheminée. Pourtant tu seras surpris, cher Noël, en lisant ma lettre au fond de ton ciel. Car je ne veux pas de livres d'images, ni de grands pantins, ni de gros tambours. C'est beau les joujoux et je suis bien sage, mais je n'en veux pas, mon cœur est si lourd. Pour jouer, j'ai bien trop de peine. Chaque jour, je pleure tout bas. Car depuis plus d'une semaine, petit père est parti là-bas. Maman est triste et parle la peine. Pourquoi tout, moi je ne sais pas. Tu tout, dis-lui qu'il revienne. Petit Noël, rends-moi mon papa. Petit père, un soir, était en colère. Maman lui parlait d'un ton de prière. Il n'écoutait rien, puis il est parti. Pour le retenir, j'étais trop petit. Maintenant, maman sans cesse soupire. Tout est devenu si triste chez nous. Je ne chante plus, je ne peux plus rire. Et je n'aime plus sortir mes joujoux. Pour jouer, j'ai bien trop de peine. Chaque jour, je pleure tout bas. Oh, que la maison serait pleine si mon petit père était là. J'appuierais ma joue à la sienne. Maman nous prendrait dans ses bras. Tu peux tout. Dis-lui qu'il revienne, petit Noël, rends-moi mon papa.
Radion.
Une chanson de l'enfance blessée, c'était « Rends-moi mon papa » par Berthe Silva. Berthe Silva disparut à l'âge de 56 ans en 1941, l'inoubliable interprète des Roses Blanches. Retour devant les micros de votre rendez-vous culturel sur Radion avec notre invité Rémy Porte, officier historien, pour ses Secrets de la Grande Guerre, disponibles aux éditions de la librairie Vuibert. Rémy Porte, vous détricotez un petit peu les mythes. Moi, j'avais appris à l'école ce mythe extraordinaire des taxis de la Marne. Et voilà que j'apprends qu'on est passé pas bien loin, peut-être pas du désastre, mais en tout cas d'une grande panique. Parce que ce n'est pas la file ordonnée de taxis que l'on pourrait voir sur certaines images glorieuses. Finalement, justement, vous plongez dans les secrets de l'organisation de ces taxis de la Marne. Alors, en juillet 1914, ça aussi c'est incroyable, c'est là qu'on voit combien les guerres vont devenir de plus en plus mécanisées. En juillet 1914, l'armée française ne compte que 170 véhicules automobiles, dont une majorité de camions, et 50 tracteurs. Et finalement, à la veille de la bataille de la Marne, eh bien, on se rend compte qu'on manque en fait de véhicules pour transporter les troupes sur le front.
Alors, dès le début de la guerre, au premier jour d'août 1914, comme c'est prévu par la loi, des commissions de réquisition se mettent en place dans tous les départements et les véhicules privés, véhicules légers, voitures comme camions, comme autobus, sont réquisitionnés, ce qui porte le chiffre de véhicules disponibles aux armées de l'ordre de 2000 en quelques jours, en quelques semaines, puis 6000 très rapidement. Mais au moment de la bataille de la Marne, je rappelle qu'on est au début du mois de septembre, la guerre a commencé depuis un mois et un jour, ou un mois et trois jours, ces véhicules-là sont pour l'essentiel utilisés à transporter des matériels, dans des convois logistiques, en quelque sorte, et ne sont pas encore tous répartis entre les armées. Il y a donc encore relativement peu de véhicules disponibles aux armées. Par ailleurs, dans le cadre de cette procédure de réquisition des automobiles, le gouverneur militaire de Paris, commandant la place d'armes de Paris, donc Gallieni, avec son état-major, a prévu de réquisitionner les taxis parisiens. Au départ, l'idée de départ était d'évacuer les archives du ministère de la Guerre et les principales archives d'État, pour les rapatrier, pour les descendre vers le sud, vers la Loire. Lorsqu'il s'avère que les Allemands ne vont pas encercler Paris, mais contourner Paris par l'Est, et que le mouvement général des troupes françaises conduit à un déplacement des effectifs vers le nord et le nord-est de Paris, les premiers engagements demandent immédiatement le transport de troupes importantes, d'un volume important de troupes. La voie ferrée ne permet pas un débit suffisant et le trajet à pied serait trop long. Et donc on décide d'utiliser les taxis parisiens. Voilà, en fait, le début de l'histoire est là. Mais ces taxis arrivent dans le secteur La Concorde invalide, hein, globalement, de façon tout à fait désordonnée, hein, au fur et à mesure qu'ils ont terminé leur course, etc., etc.
Mais on les imagine enthousiastes et heureux de contribuer à cet effort militaire.
Oui, oui.
Quand bien même ils sont réquisitionnés.
Au départ, oui, pour la plupart d'entre eux, bien sûr. Hein. Au fur et à mesure, on charge des groupes de 3, 4, 5 soldats dans les véhicules. Et puis tout ça, petit à petit, au goutte à goutte, au fur et à mesure qu'on a des véhicules et des hommes à transporter, prend la route du canal de l'Ourcq, globalement, hein, pour aller sur la bataille de l'Ourcq. Sans que ce soit très ordonné, sans que les chauffeurs ne sachent quelle est la destination exacte, sans que du ravitaillement n'ait été prévu en route, sans qu'il y ait ce qu'on appelle aujourd'hui une police de la route.
Il n'y a pas de guidage.
Pour guider les véhicules, etc., etc. Ce qui fait que des véhicules se perdent, certains font demi-tour. Bon, c'est un joli désordre, très honnêtement.
Et on perd du temps.
Alors on perd du temps. Et finalement, les effectifs transportés ne seront pas extrêmement importants à l'échelle de l'ensemble de cette bataille de la Marne qui va de Paris à Verdun. Et qui met en œuvre pratiquement 4 armées françaises plus l'armée britannique. On va transporter quelques bataillons. C'est donc un appoint significatif pour la bataille de l'Ourcq en elle-même, mais à l'échelle de la bataille de la Marne dans son ensemble, c'est somme toute assez peu de choses. Et puis, ce qu'on oublie généralement de préciser, c'est qu'en revenant au parking, en revenant sur Paris, une fois cette course effectuée, ben, les chauffeurs ont fonctionné au compteur. Et donc le gouvernement va payer la course, ce qui représente une somme relativement rondelette. Alors cet événement-là va rentrer dans la mémoire populaire et va être instrumentalisé, là aussi, va être présenté par la propagande, entre guillemets, par la presse, parce que c'est, de façon un petit peu symbolique, le peuple de Paris, le petit peuple de Paris, qui participe lui-même à la défense de la capitale et qui se lève pour participer à la défense de la capitale, même s'il n'est pas militaire. Et donc, on va jouer là-dessus en termes d'image, hein, en fait. Hein. C'est le petit peuple de l'arrière, le petit peuple de Paris qui défend sa ville.
Ça montre quand même que la France manquait un petit peu de moyens pour mener une guerre longue, parce qu'en fait, on est parti dans les esprits début 14 pour une guerre très courte. Et on se rend compte que l'effort va nécessiter justement une mécanisation d'une armée qui n'est pas prête.
Alors, là, je crois qu'il y a vraiment un vrai débat de fond en histoire à ouvrir. On ne cesse de nous répéter qu'on n'était pas prêt pour une guerre longue et qu'on s'était malheureusement préparé pour une guerre courte. Je crois qu'il faut rétablir les choses telles qu'elles ont été en réalité. C'est-à-dire que tout le monde, financiers, avocats, banquiers, parlementaires, ministres, journalistes, etc. Tout le monde s'attendait à une guerre courte. Militaire aussi.
Mais une guerre courte, c'était quoi? 4 mois?
Oui.
Très court, quoi. Oui.
Et si vous me permettez, tout le monde s'attendait à une guerre courte. En France, mais en Allemagne aussi, mais en Angleterre aussi, mais en Autriche-Hongrie aussi. Personne en Europe ne pensait que la guerre pouvait durer 4 ans presque et demi, ou 4 ans et 3 mois. C'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que si on prend les événements dans leur durée, la guerre courte est quand même plutôt la norme. La plupart des guerres n'ont pas duré très longtemps. La guerre de 70, c'est de l'été 70 à janvier-février 71. La deuxième guerre mondiale, c'est 6 semaines en mai-juin 40 pour nous. Donc la guerre courte, c'est plutôt le déroulement normal, historiquement parlant, des grands conflits. Et cette guerre longue est tout à fait atypique. Elle est anormale au sens propre du terme. Donc il me paraît difficile d'en faire, avec un regard porté sur les événements 70, 80, 90 ans, un siècle après, avec ce que l'on sait de la suite, hein, il me paraît difficile d'en faire le reproche à ceux qui, au départ, se sont engagés en août. On est vraiment dans une culture générale en Europe qui est très unanimement partagée. Et puis, par ailleurs, je redonne l'exemple de mai-juin 40, 6 semaines de combat.
Concernant l'armistice 1918, il n'y a plus aujourd'hui de survivants à ce conflit de 14-18. Comment voyez-vous la continuité des commémorations de cet armistice qui est une journée, le 11 novembre, mais vous pensez qu'on va rester scolairement attaché à marquer cet événement dans l'esprit des Français, parce que la mémoire, comme vous dites maintenant, dans les familles, on ne parle plus, il n'y a plus de gueules cassées, on ne croise plus de gueules cassées, on ne croise plus de gens complètement mutilés dans des fauteuils. Alors il y aura peut-être d'autres mutilés, d'autres guerres, parce que la France a toujours des soldats engagés sur des opérations extérieures, mais comment voyez-vous la continuité des commémorations autour de cet armistice 1918 ?
Oui. Alors, je vais vous faire une réponse en deux temps, ça, si vous le permettez. On commémore l'armistice du 11 novembre 18 parce que c'est la fin des opérations militaires actives, l'armistice en tant que tel. Il ne faut jamais oublier que le traité de paix n'est signé qu'en juin 1919. Donc entre novembre 18 et juin 19, on est toujours en état de guerre. Et l'armistice est prolongé à plusieurs reprises. Et ce traité qui est signé en juin 1919 ne sera ratifié qu'au deuxième semestre 1919 par les différents parlements, par les différents pays. Et l'état de paix en droit international, juridiquement parlant, n'intervient qu'en janvier 1920. Donc quand on parle de la Première Guerre mondiale, il y a bien sûr l'armistice du 11 novembre 18, mais la paix n'intervient en tant que telle que bien plus tard. Au-delà, pour ce qui est de sa commémoration aujourd'hui, on est dans une question qui est extrêmement complexe, parce que tout ce qui a trait à la mémoire reste extrêmement sensible. C'est la guerre qui a le plus touché récemment toutes les familles de France. Il n'y a qu'à voir les listes de noms sur les monuments aux morts. Donc ça reste dans les familles, même s'il n'y a plus de survivants directs. On a tous des récits qui ont été transmis de grands-parents en parents, etc. Donc ça reste relativement présent dans les familles. Et puis, toute commémoration, alors de 1918 comme les autres, toute commémoration induit nécessairement une certaine conception politique. Qu'est-ce qu'on veut donner ? Qu'est-ce qu'on veut représenter ? Qu'est-ce qu'on veut faire comprendre ? Et on voit bien que depuis quelques années, il y a un mouvement très lourd sur la paix sur le continent, l'amitié franco-allemande et la paix sur le continent. Alors, comment représenter dans ces conditions 1918 ? Pour ce qui est du centenaire en tant que tel, de 2014, donc une année bien spécifique, 1914-2014, je crois que nos collègues, nos homologues, nos concitoyens européens, allemands, britanniques et bien au-delà, les Australiens, les Néo-Zélandais, etc., etc., les citoyens des différents pays qui ont participé à la Grande Guerre, en attendent une commémoration plutôt militaire. Moi, j'ai énormément de contacts à l'étranger avec beaucoup de camarades historiens. Ils en attendent plutôt, par la France, une commémoration des événements en eux-mêmes. Ensuite, dans la mémoire qu'il faut en garder, il faut se tourner vers l'avenir, parce que l'histoire n'a à la limite d'utilité que si elle permet, non pas d'anticiper, mais de réfléchir à l'avenir. Il faut bien sûr se tourner vers l'avenir, et donc les notions d'amitié franco-allemande, d'amitié européenne, etc., sont absolument fondamentales. D'ailleurs, je note pour l'anecdote que la rue, l'avenue qui passe devant le mémorial de Fleury-Douaumont à Verdun s'appelle Avenue du Corps Européen. C'est quand même significatif. Oui. Hein, devant le mémorial de Verdun, c'est l'avenue du Corps Européen. Voilà. Donc là, il y a un vrai mouvement auquel on ne peut pas... Il serait stupide de résister, mais sans déformer les faits, sans tordre les faits, pour les faire passer sous les fourches caudines d'une représentation de l'histoire. Il faut simplement... Les faits ont un siècle maintenant. On peut quand même les observer froidement, les analyser, observer les faits et en tirer des enseignements pour demain. Mais observer les faits pour ceux qu'ils sont, effectivement.
Je vous rappelle que vous écoutez Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion, consacrée ce soir au secret de la Grande Guerre de Rémy Porte, qui est devant notre micro. Nous poursuivrons cet entretien avec lui dans quelques minutes. Place à la chanson, je vous propose cette fois Dans la tranchée, interprété par Tichot, un titre extrait d'un album intitulé Vie de bonhomme.
Je vous écris, ma chère maman, durant que pour un bon moment, notre section est bien cachée dans la tranchée. Tous babileux, tous bons copains, on est là comme des petits lapins. Face au puceau, toute une nichée dans la tranchée. C'est vraiment le petit trou, pas cher. Y'a pas à dire, c'est la grandeur. Quoique la vue soit un peu bouchée dans la tranchée. Mais par l'orchestre d'un casino, par les tziganes ou le piano, on n'a pas l'oreille écorchée dans la tranchée. Nos 75, nos rimélos, nous berçant à l'heure trémolo, on rêve à la France revanchée dans la tranchée. Alors commence sempiternelle les arrosages de leur shrapnel. La terre en est toute jonchée dans la tranchée. Quelle collection de presse papier pour le retour sera pêché dans la tranchée. L'un de nous est mort joyeux en s'écriant tout est au mieux. Voilà ma tombe toute piochée dans la tranchée. Le sergent Quécuré lui dit repose en paix, héros béni, sur qui la gloire s'est penchée dans la tranchée. Nous te vengerons, nous le jurons tous, car la victoire est avec nous. Elle monte la garde près de nous, couchée dans la tranchée.
Radion à Auxerre, 95.
Retour à bord de votre émission littéraire Wagon Libre, consacré à la Grande Guerre de 14-18, en compagnie de notre invité, l'officier historien Rémy Porche, je pourrais dire mon colonel, pour Les Secrets de la Grande Guerre, paru aux éditions de la librairie Vuibert. Bien évidemment, on ne peut pas évoquer tous les aspects que vous traitez dans votre ouvrage. J'aimerais tout de même vous demander d'aborder un aspect souvent mal connu ou moins connu, c'est nous parler un petit peu de la guerre sous-marine. Parce que là aussi, c'est un peu... Bon, il y a eu des batailles navales dans l'Antiquité, il y a toujours eu des affrontements des puissances sur mer. Mais là, effectivement, en 14, c'est une guerre qui est quand même moderne. Il s'agit de créer un blocus, de priver l'ennemi de ses ressources, de couper certaines voies. Et il y a, effectivement, la Grande-Bretagne, surtout, est un peu la maîtresse des mers. Mais l'Allemagne ne va pas rester en reste. Elle va réagir assez rapidement. Est-ce que je peux vous demander d'évoquer... C'est un peu difficile parce que je pense que la question est vaste. Mais pouvez-vous essayer de nous donner quelques éléments sur cet aspect de la guerre sous-marine?
Alors, le sous-marin en tant que navire date bien évidemment d'avant 1914. Mais jusqu'à la Grande Guerre, ils sont essentiellement utilisés pour protéger les abords des ports, les zones côtières. Pour faire simple. Très rapidement, dès l'automne 1914, les alliés, britanniques en tête, comme vous le soulignez, puisque c'est les britanniques qui contrôlent les mers, qui contrôlent les voies maritimes, les britanniques engagent avec les français le blocus des empires centraux, le but étant d'interdire à l'Allemagne d'acquérir des matières premières et des produits alimentaires, de façon à la contraindre à cesser la guerre par manque de ressources. Et pour briser ce blocus, l'arme qui va être développée par l'Empire allemand, c'est le sous-marin. On parle beaucoup du Lusitania, qui aurait fait entrer en guerre les États-Unis. En fait, il y a un an et demi qui s'écoule entre le fait que le navire soit coulé et puis l'entrée en guerre effective des États-Unis. On parle beaucoup de la guerre sous-marine à outrance en 1917, parce que là, effectivement, c'est le premier semestre 1917, la période où les alliés connaissent les plus grosses pertes de tonnage, au point qu'à un moment, le gouvernement britannique sera à deux doigts en juin de se demander s'il ne va pas être contraint, lui, d'arrêter la guerre. Mais en fait, cette guerre sous-marine commence dès août 14, avec un premier raid de quelques sous-marins allemands, très modestes encore par leur taille, autour de l'Angleterre, et va être développé en 1915, et va durer en fait toute la guerre, non seulement dans la Manche, la mer du Nord et l'Atlantique, mais aussi ce qu'on connaît moins en Méditerranée. Et c'est en Méditerranée, en 1915, c'est en Méditerranée que les sous-marins allemands et autrichiens, il y a quelques sous-marins autrichiens également, sont les plus actifs et que les alliés connaissent les pertes les plus sévères.
Alors, vous avez parlé du Lusitania. Il faut reconnaître aussi que le Lusitania ne transportait pas que des civils. J'ai appris en vous lisant que finalement, on en profitait aussi pour transporter quelques milliers de caisses de munitions et des obus. Le Lusitania, donc, c'est en mai 1915, et c'est à l'époque, donc c'est un paquebot britannique, c'est le plus grand et le plus beau paquebot de l'époque qui est coulé en mai 1915 par les Allemands. Puis on aime bien aussi faire passer l'Allemagne comme un pays de barbares. C'est aussi un peu, on est content quand ce genre d'incident se produit.
Très exactement dans le discours de propagande du temps de guerre. Du côté allié et en particulier du côté français, souvenez-vous des titres et puis des ouvrages nombreux, des livres, mais des titres de la presse, après le bombardement de la cathédrale de Reims. Et donc, il y a une espèce d'assimilation par la presse qui devient, en temps de guerre, une presse officielle, parce qu'il y a la censure, parce qu'il y a tous les contrôles que l'on peut envisager. Il y a une espèce d'assimilation allemand, culture avec un K, avec une lettre gothique, et barbare, de façon à présenter le combat des alliés, français et britanniques, comme celui du droit et de la civilisation contre la violence, l'impérialisme, le militarisme, etc. Mais là, on est dans la mobilisation des esprits et la propagande.
Avant de nous séparer, Rémy Porche, donc je rappelle le titre de votre ouvrage « Les secrets de la Grande Guerre », c'est aux éditions de la librairie Vuibert, avec des chapitres vraiment très intéressants. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, bon, parce que faute de temps, l'épopée de la division belge d'auto-mitrailleuse, comment on se retrouve à l'autre bout du monde en ayant été incorporé dans l'armée belge. Vous parlez aussi des conditions de vie des soldats, les fameux jardiniers de Salonique, qui n'avaient pas la vie aussi belle que Clémenceau, je crois, pouvait le laisser entendre. Il les méprisait pas mal, d'ailleurs. Hein. C'est lui qui les appelait les jardiniers de Salonique.
Dans le débat politique. Hein. Oui. Clémenceau est un tribun extraordinaire, un orateur extraordinaire. Hein. Et il a toujours été hostile à cette intervention en Orient, et il utilisait donc un terme relativement méprisant pour qualifier les soldats qui étaient là-bas.
Et en fait, en vous lisant, on se rend compte que c'est vraiment pas cela. Vous parlez aussi de Nivelle, le général Nivelle, le haine le maudit, la guerre sous-marine à outrance, il y a un chapitre absolument formidable, l'armée américaine dès 1918 qui quand même vient un petit peu à notre aide de manière incontestable. Quand
oui,
même.
Oui, oui,
ça
complètement.
Ça a été un apport d'hommes très important.
Alors, voilà, je pense que dans les années qui ont suivi, alors dès la guerre elle-même, dès 17 et dans les années qui ont suivi, là aussi il y a eu une présentation, disons un petit peu officielle, de l'intervention américaine pendant la Grande Guerre, avec l'Amérique volant au secours de l'Europe. Bon. C'est vrai sur le plan quantitatif. Lorsque l'armistice va sonner, il y a 1 million d'Américains en ligne sur le front. C'est un renfort absolument considérable, alors que dans le même temps, l'armée allemande s'épuise et ses effectifs diminuent. Donc ça nous donne un avantage quantitatif énorme. Qualitativement, c'est tout à fait autre chose.
Oui, ils ne sont pas formés.
Parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'avoir une formation solide, et en particulier au niveau de leurs cadres, de leurs officiers, de leurs états-majors, qui en sont restés, toutes choses étant égales par ailleurs, entre les guerres indiennes et la conquête des Philippines. C'est-à-dire de la petite guerre, entre guillemets, et qui n'était pas prêt à aborder toutes les difficultés techniques, logistiques et de planification d'une guerre industrielle.
Les secrets de la Grande Guerre, c'est donc votre ouvrage, Rémy Porte, je rappelle, donc aux éditions de la librairie Vuibert, et je vous remercie d'avoir été devant le micro de Wagon Livre et de nous avoir aidé à marquer les commémorations du 11 novembre sur l'antenne de Radion. Mon colonel, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Je vous laisse redonner le lien du site internet
oui.
pour celles et ceux qui veulent aller creuser encore plus tous les d'autres conflits des 19e jusqu'au 21e siècle.
Donc, au pluriel, guerre et conflit, 19e, 21e, notre slogan, si je peux me permettre, à toute l'actualité de la presse et de l'édition en histoire.
Voilà. Un beau travail de synthèse, des recensions, et puis, j'allais dire, un vivier inépuisable.
Je sais, puisque nous avons tous les matins, par notre serveur, notre hébergeur, le bilan des connexions de la veille, je sais que globalement, entre 40 et 50% des visiteurs viennent du monde de l'enseignement ou universitaire. Donc, a priori, on peut penser qu'on est un petit peu utile.
Bravo et bon courage pour ce site qu'on va aller découvrir avec vous. Merci Rémy Porte.
Merci.
Avant de nous séparer, je voudrais aussi remercier Aurélie Delphi, attachée de presse aux éditions de la librairie Vuibert, pour avoir rendu possible l'entretien que vous avez pu entendre ce soir avec Rémy Porte. Petit post-scriptum avant de laisser place au programme musical de Radion, pour mentionner la réédition d'un livre du linguiste et ethnologue Albert Dauzat. Ce livre s'intitule « Légendes, prophéties et superstitions de la Grande Guerre ». C'est un livre paru au mois d'octobre dernier aux éditions de la librairie Vuibert. Et effectivement, Albert Dauzat s'intéresse à toutes les rumeurs, faux bruits, croyances, amulettes, talismans, occultisme, prophéties qui ont régné en maître durant les 4 ans de cette grande guerre, comme si le rationnel avait capitulé devant l'imaginaire. C'est donc « Légendes, prophéties et superstitions de la grande guerre » d'Albert Dauzat aux éditions de la librairie Vuibert. Du côté des magazines, je signale la parution en kiosque Maison de la Presse et librairie du dernier numéro de Pays de Bourgogne. Dans son numéro 234, la revue trimestrielle, qui fêtera d'ailleurs l'année prochaine en 2013 son 60e anniversaire, eh bien la revue nous offre
un bel article sur les années d'études d'Henri Vincenot à l'École supérieure de commerce de Dijon à la fin des années 20, un beau papier signé Claude Chapuis, qui évoque aussi la rencontre Vincenot-Aroun-Taziev lors de matchs de rugby, mais aussi la découverte du hameau abandonné de la Peurie dès 1929. Autre article absolument captivant qu'il faut lire, c'est un article qui est consacré à la Vierge, au Diable, à Gargantua et à quelques figures de la mythologie bourguignonne. C'est sous la plume de Patrice Vachon, c'est à découvrir sans faute dans le tout dernier numéro de Pays de Bourgogne. Pour ma part, si vous le désirez, je vous invite à nous retrouver mercredi prochain, 14 novembre, sur Radion, toujours à 21h, pour une émission de compte-rendu de la 5e fête du livre de Saulieu qui s'est tenue le week-end dernier dans cette belle ville d'étape. Je vous ferai alors partager un entretien avec l'invité d'honneur de ce convivial salon, le dessinateur Gab, illustrateur à l'hebdomadaire La France Agricole. Également au programme, une dépaysante plongée dans le patois morvandio, avec les ateliers de patois de Saulieu et avec Alain Robert, auteur d'un ouvrage récemment paru chez CPE et intitulé « Patois bourguignon » qui évoque les principaux aspects historiques et linguistiques des patois. Nous donnerons la parole à Dominique, auteur professionnel jeunesse, et à des auteurs de polar, Patricia Rapneau, Irène Chauvy et Jean Bérénice. Un grand merci pour votre fidélité, excellente soirée à l'écoute de Radion. À la semaine prochaine, au revoir à toutes et à tous.